Dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 6, il est écrit « Le cultivateur qui s'est chargé du travail pénible doit être le premier à recevoir sa part de la récolte. » C'est la deuxième lettre que écrite par l'apôtre Paul à Timothée. Et j'aimerais vous partager ce matin la troisième métaphore, autrement dit la troisième image que Paul utilise pour illustrer certaines vérités qui touchent à la vie de tous les disciples de Jésus. La première image est celle du soldat que vous connaissez. Paul souligne ici que le disciple, comme le soldat, ne doit pas s'encombrer de trop d'affaires pour combattre. Il ne doit pas avoir un casque de rechange, 3 épées, 2 lances. Et pour nous, c'est la même chose. Plus nous accumulons de choses, et plus nous accumulons aussi les soucis. Ce qui conduira alors notre cœur et notre esprit à être moins disponibles pour ceux qui comptent vraiment pour Dieu. La seconde image est celle de l'athlète. L'apôtre Paul souligne le fait que, comme pour l'athlète, la vie chrétienne obéit aussi à des règles. Il y a des choses auxquelles nous devons obéir et d'autres que nous devons rejeter si nous voulons jusqu'à la fin rester dans la course chrétienne. Se croire au-dessus des règles, penser que l'on peut mener sa vie comme on l'entend, et qu'ensuite, on aura droit à la couronne céleste, c'est se bercer d'illusions, c'est se mentir à soi-même. Et la troisième image que Paul utilise et que nous allons analyser ce matin est celle du cultivateur. Il ne suffit pas que d'être disponible comme le soldat et de courir selon les règles comme l'athlète. L'apôtre Paul veut mettre en évidence ici une troisième qualité qui est indispensable à la vie du disciple. C'est l'effort. Le cultivateur qui se donne de la peine, dit-il, doit être le premier à recevoir sa part des fruits. Que peuvent nous apprendre les cultivateurs qui puissent nous être utiles pour la vie chrétienne? 3 choses que nous allons voir ce matin. Cultivateur est un métier difficile. Avec celui de berger, le métier de cultivateur est l'un des plus beaux et des plus vieux métiers du monde. Et nous voyons ça dès les premières pages de la Bible, dans Genèse 4, verset 2. Nous lisons qu'Abel était berger et que Caïn était cultivateur. Mais avant même Caïn, Dieu précisa à Adam, après la chute, de quelle manière il devrait désormais assurer sa survie. Et nous pouvons lire dans Genèse 3, versets 17 à 19, « La terre sera maudite à cause de toi. C'est avec peine, on retrouve ici les mêmes mots utilisés par Paul, que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Elle fera pousser des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. » Avec cette déclaration de Dieu à Adam, nous comprenons mieux pourquoi le métier de cultivateur est difficile. À cause du péché qui s'est introduit dans le monde, la terre a été maudite. Au lieu qu'il y pousse naturellement de bonnes plantes, Dieu dit qu'elle va produire des épines et des chardons. Le métier de cultivateur est donc un métier de force, parce que constamment, la terre sur laquelle il sème et à partir de laquelle il doit tirer sa nourriture est contre lui. S'il se relâche un moment pour prendre une journée ou une semaine de bon temps, il le sait. La semaine suivante, c'est la cata. C'est la catastrophe. Car il sait qu'il devra fournir le double d'efforts pour arracher les mauvaises herbes. La première leçon que nous enseigne donc le cultivateur au sujet de la vie du disciple de Jésus est que la vie du disciple doit être envisagée aussi avec une vie difficile. Comme il en est pour le cultivateur avec sa terre naturelle sur laquelle tombe la parole de Dieu, c'est-à-dire notre cœur, n'est pas une bonne terre. C'est en quelque sorte une terre maudite, une terre qui naturellement ne produit pas de bons fruits, mais fait grandir, à cause du péché qui s'y trouve, des épines et des chardons. Les champs que l'on a vus en Israël sont l'image de notre cœur, de disciples de Jésus. Notre cœur est une terre de mélange. À côté de la bonne terre, notre bon vouloir, notre envie de servir Dieu, d'aider notre prochain, de venir aux études bibliques, aux réunions de prière, s'y trouvent aussi toutes sortes de choses nuisibles, qui ne sont là que pour un seul but, étouffer la parole de Dieu, la rendre infructueuse, empêcher le semeur de récolter le fruit espéré. C'est parfois comme ça dans nos vies, n'est-ce pas? C'est pourquoi il nous faut vraiment nous mettre dans l'esprit que ce n'est qu'en travaillant durement et quotidiennement qu'elles changeront nos cœurs et que de mauvaises terres, notre cœur se transforme ensuite en bonne terre. C'est ici d'ailleurs le plus grand des miracles, et je pense que Salvatore Cavalleri sera d'accord avec moi, que l'on peut constater en Israël. Alors qu'il y a encore plus de 80 ans, Israël n'était qu'une terre infertile, pleine de rocailles et d'épines. C'est aujourd'hui, selon l'expression de ceux qui y vivent, le jardin du monde. On y trouve tout, de tout, et en abondance. Si ce miracle vient de Dieu, il s'explique aussi par le travail acharné qu'ont fourni les pionniers juifs qui y sont retournés. Nous devons donc en être conscients. Ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau que immédiatement le fruit de la sainteté, de la pureté et de la maîtrise de soi va germer en nous. Pierre dit, « Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie avec lui et à la piété. » Mais il précise que nous devons y ajouter un certain effort pour que le fruit de l'Esprit se multiplie en nous. Je vais vous lire maintenant dans 2 Pierre 1, du verset 3 à 8, dans la Bible Parole Vivante, ce verset. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elle, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison, même faites de votre côté tous vos efforts, pour développer votre foi, pour lui adjoindre l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse. Que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles. À la connaissance spirituelle, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À cette attente patiente du secours divin. L'attachement à Dieu est une confiance toujours plus grande en lui. Enfin, à cet attachement à Dieu, joignez l'affection fraternelle qui vous conduira à l'amour. Si vous possédez ces qualités et si vous les développez sans cesse jusqu'à en être rempli, elles ne vous laisseront pas inactifs et sans fruit. Au contraire, vous ferez des progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici se termine la lecture de la parole de Dieu. Et c'est vrai. Il est vrai que le jour où nous avons été appelés, où nous avons cru en Jésus, nous avons été sauvés. Mais Paul précise, Paul nous rappelle dans la lettre aux Philippiens que nous devons aussi travailler à notre salut. Le premier trait de ressemblance entre le cultivateur et le disciple de Jésus est que notre participation, c'est-à-dire notre volonté, et notre coopération, c'est-à-dire notre capacité avec Dieu, exige de nous un engagement entier qui nécessite un travail et de la souffrance. Parce que les bénéfices du salut que le Christ nous a acquis ne germeront pas d'eux-mêmes. Deuxième point, cultivateur, c'est un métier de passion. Si le métier de cultivateur est difficile, et nous l'avons vu, il est aussi un métier qu'il n'échangerait pour rien au monde. La raison pour le cultivateur de travailler la terre n'est pas qu'un labeur. C'est aussi un plaisir et une passion. Dans un livre écrit en 1984, intitulé « La fin des paysans », Henri Mendra explique pour quelle raison l'agriculteur est aujourd'hui en danger. La vie du paysan, dit-il, est pénible et les journées sont parfois très longues, de l'aube au coucher du soleil. Le paysan ne connaît pas les congés payés, pas plus que le 13e mois. Mais il aime son travail, il aime sa terre, il aime sa famille, et cela lui suffit. Tout comme pour le cultivateur, le seul moteur capable de nous motiver à faire l'effort nécessaire pour vivre une vie chrétienne, fructueuse, ne peut être que l'amour. Nous pouvons faire beaucoup de choses dans la vie, dans l'Église, avec une autre motivation que l'amour. Mais Jésus et Paul le disent. Seul l'amour a le pouvoir de nous faire vivre avec passion la vie chrétienne. Dans Jean 14, 21, on lit, celui qui a mes commandements et qui les garde, dit Jésus. Mais qui est-il? C'est celui qui m'aime. Qui est celui qui, dans la vie chrétienne, a de la joie à obéir à Dieu? C'est celui qui l'aime. C'est celui qui aime Jésus. Celui qui m'aime, ajoute Jésus, sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître toujours à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, verset 23. L'amour, la passion pour Jésus est au cœur de la vie chrétienne. Tout comme celui de la terre est au cœur de la vie du cultivateur. Paul a durant sa vie enduré beaucoup de souffrances, des longs moments de confinement en prison, travaillé quantité de choses. Mais le zèle qu'il démontre durant sa vie chrétienne, a une seule source, Christ. Christ est ma vie et la mort m'est un gain, dit-il dans Philippiens 1, verset 21. Souvenons-nous-en. Comme pour le cultivateur, il n'y a pas de vie chrétienne heureuse sans passion pour Christ. Car si la passion disparaît, il ne reste plus à la vie chrétienne que l'effort. Et l'effort sans la passion ne peut mener qu'à la lassitude et à l'épuisement. Troisième et dernier point, cultivateur, un métier qui nécessite la foi. S'il y a bien un malaise qui existe dans une profession, c'est bien chez les cultivateurs. Dans un ouvrage qui traite de l'époque dans laquelle nous vivons, Paul Rance, un Suisse, nous dit pourquoi. Quel est le problème auquel est confronté l'agriculteur aujourd'hui, dit-il. Vous le savez, en agriculture, une récolte peut être que bonne ou mauvaise. Et elle peut être aussi sujette à l'apparition d'une maladie. Elle dépend aussi du temps. Trop de pluie, de la grêle, et j'en passe. L'agriculteur donc n'a aucun pouvoir pour assurer la réussite de sa récolte. L'agriculteur n'a rien en main. Il est donc dépendant de quelqu'un. Il est dépendant de Dieu. Oui, le cultivateur est un homme qui vit par la foi. Il sème, mais il ne peut qu'espérer que la récolte soit bonne. Paul le souligne dans son enseignement. Le cultivateur est un homme qui vit dans l'attente du fruit de la récolte. Pendant des semaines, il travaille sans rien voir. Il a retourné la terre, semé les graines, mais tout le reste n'est pas entre ses mains. Il vit en prévision et en espérant une récolte. Mais jusque-là, il ne peut qu'attendre et espérer. Tous les jours de la vie du cultivateur ne sont pas faciles et heureux. Tous les jours de la vie chrétienne ne sont pas faciles et heureux. Mais ce qui le soutient, c'est la vision du produit fini de son travail. Ce qui fait vivre l'agriculteur chaque jour est aussi ce qui devrait faire vivre le disciple de Jésus. Et lorsque la récolte vient, dit Paul, il est le premier à s'en réjouir. C'est là la récompense de tous ses efforts. Que nous enseigne ici l'agriculteur au sujet de la façon avec laquelle nous devrions vivre notre vie chrétienne? Une leçon importante. Cette leçon est que beaucoup de choses dans la vie perdent de leur lourdeur quand on se souvient de la raison pour laquelle on les a fait. Exemple. Il n'est pas facile pour personne qui apprend la musique de répéter chaque jour des gammes ou de devoir passer des heures et des heures à apprendre une partition et à essayer de maîtriser un instrument. Mais quelle joie, n'est-ce pas, ensuite, quand tu peux faire partie d'un orchestre, d'un groupe, et de ravir le public par un morceau de musique. Ce qui doit nous porter et nous motiver aujourd'hui à vivre avec Dieu, à obéir à sa parole, à renoncer au péché, ce n'est pas tellement les bénéfices que nous en retirerons maintenant. Il se peut bien au contraire que le résultat de notre obéissance et de notre attachement à Dieu nous vaille parfois plus de difficultés et de souffrances que l'inverse. Ce qui doit nous motiver, c'est, dit la Bible, la moisson, la récompense que Dieu lui-même nous donnera, suivant la qualité de nos efforts pour vivre selon sa volonté et servir à sa gloire ici-bas. Alors que certains disciples autour de Jésus étaient tentés de se contenter de peu, Jésus les mettra en garde sévèrement contre les dangers que leur paresse leur fait courir pour plus tard. Et Jésus va utiliser dans Matthieu 25, à partir du verset 14 à 30, une parabole, la parabole des trois serviteurs. Et après la lecture que vous ferez chez vous, vous verrez, vous constaterez que nous sommes actuellement tous dans la condition des serviteurs de cette parabole, qui vivent un temps où le maître n'est pas là. Mais le maître, comme on l'a lu, va un jour revenir pour faire rendre compte à chacun de la façon avec laquelle il a géré le capital qui lui a été donné. Malheur donc à celui qui se sera montré paresseux et qui aura oublié la raison de sa mission, faire fructifier le talent reçu pour la gloire du maître. Comme celle du cultivateur, la vie du disciple de Jésus est une vie de foi. Ce n'est que tout à la fin de sa course que le serviteur de Dieu, le chrétien, peut rendre son tablier pour entrer dans le repos. C'est ce que nous dit Paul dans cette épître, la dernière qu'il a écrite peu de jours avant sa mort. C'est dans 2 Timothée 4:8 que je lirai tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais résumer en trois phrases. J'ai mené le bon combat. J'ai vécu comme un soldat de Jésus. J'ai achevé la course comme l'athlète. J'ai suivi les règles. J'ai gardé la foi comme le cultivateur. J'ai vécu et travaillé en vue de la récolte. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Je peux entrer dans le repos et commencer à régner avec Christ dans les cieux. 2 Timothée 4, verset 8. Que la passion de Paul pour Jésus-Christ soit aussi la vôtre jusqu'au bout. Amen.